Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans l'interview du jour, je vous invite à rencontrer deux grandes dames. Donc, je vais les présenter une à une et puis on découvrira pourquoi je tenais à ce que les auditeurs d'RDWA en fassent la connaissance. Alors, tout d'abord, Laurence Côté. Alors, suite à une série d'événements, elle sombre pendant plus de 10 ans dans l'enfer qu'est l'alcoolisme. Elle s'en sort suite à une prise de conscience, un déclic. Elle décide alors de s'en sortir, réellement. Elle nous offre son premier témoignage avec le livre à écrire chez Publibook, mais sous le pseudonyme de Constance Larsen. Son cheminement se faisant, elle rencontre divers professionnels, se découvre différemment et décide de témoigner à visage découvert et à patronyme découvert. Elle imagine alors une méthode de sevrage, la méthode H3D, et nous la met à disposition dans un deuxième ouvrage, Non, j'ai arrêté, chez Interédition. Alors bonjour Laurence.
Bonjour Aurélie et les auditeurs.
Donc vous êtes d'accord avec la petite présentation que j'ai faite ?
Parfaite.
Parfaite. Ensuite, Christine Joly, donc chef de service à l'unité de soins alcoolologie et addictologie du centre hospitalier de Valence, l'US2A-CHV, donc addictologie, toxicomanie, alcoologie, tabacologie. Elle est responsable, donc est chef du service. Elle a été pendant 10 ans médecin urgentiste au centre hospitalier de Romans et devient en 1998 responsable du service que je viens de citer. Alors bonjour Christine.
Bonjour Aurélie.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Vous êtes d'accord avec le petit parcours que j'évoque ?
Mmh.
Super. Donc, toutes les deux, vous êtes réunies dans le studio d'RDWA aujourd'hui pour témoigner, hein, l'une comme alcoolique abstinente et l'autre comme professionnelle de cette maladie qu'est l'alcoolisme, mais pas que visiblement. Peut-être, Laurence, Christine, auriez-vous pour commencer quelque chose à dire ou peut-être nous expliquer le point de rencontre entre les deux femmes que vous êtes ?
Donc, il y a quelques mois, c'était fin de l'année, il y a un médecin qui est addictologue de Lyon que je connaissais de nom. Dans le réseau addicto, on n'est pas très nombreux comme médecins, donc on se connaît de nom, mais même si on ne se connaît pas trop physiquement du fait de la géographie, qui m'appelle et qui me dit est-ce que je pourrais recevoir en stage quelqu'un qui a eu des soucis avec l'alcool, qui a arrêté de boire depuis plusieurs années et qui a écrit un livre. Je dis, pas de souci, qu'elle m'appelle, il n'y a pas de souci, pour qu'elle téléphone. Donc ensuite, quelques semaines plus tard, Laurence a téléphoné et on a discuté de la situation et de l'organisation de son arrivée dans le service.
Donc il faut quand même savoir que Laurence Côté, hein, vous avez effectivement sombré dans l'alcool, mais à partir du moment où vous décidez de vous en sortir, il y a cette petite notion qui arrive en vous, hein, cette petite fibre d'entraide, de soutien, où vous décidez de vous ouvrir aux autres et de les accompagner aussi.
Oui, enfin il y a deux aspects. Il y a un, je me rends compte qu'alors même qu'on a 5 années d'abstinence par rapport à l'alcool ou d'autres dépendances, on reste toujours fragile. Et il faut avoir l'humilité d'avoir un contact avec un professionnel, hein, pour à tout moment se faire accompagner si on en ressent le besoin. Mon passé professionnel était plutôt à Paris. Donc j'avais cette opportunité où je partais à Paris, où je restais dans ce beau pays qui est le nôtre. Et en fait, effectivement, c'est une relation qui me met en contact avec Christine. Et elle le sait peut-être pas, mais quand j'appelle, c'est parce que moi-même, je me sens en fragilité, hein, par rapport à un livre dont le titre est quand même assez fort, quoi. Non, j'ai arrêté. Donc il faut vraiment arrêter, quoi, toute sa vie, mais on en parlera. Et donc on a toujours besoin d'un soutien, et donc j'ai trouvé le médecin addictologue adéquat pour ça. Après, l'autre aspect, c'est qu'alors que je suis juriste de profession, et que ma voie tracée était celle de l'avocature, je fais du bénévolat à ce niveau-là, pendant à peu près quand même 2 années, et je me rends compte que, en fait, derrière le dossier qui m'est confié, derrière l'application de la norme de droit, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est surtout pourquoi la personne que je vais défendre en est arrivée là. Et je me rends compte que très souvent, l'alcool et d'autres dépendances ont mis mon client dans une situation parfois catastrophique. Ça peut être la perte d'un permis de conduire, ça peut être la perte de la garde de son enfant, etc. Donc je me rends compte, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aider la personne addict bien plus que de plaider un dossier. Ce qui veut donc dire, pour moi, je vais aller au bout d'une méthode, la méthode H3D, je vais aller au bout d'un désir, qui est de changer complètement de métier. Et là, il faut tout redémarrer à zéro. Par un stage.
Donc effectivement, vous étiez directeur des risques d'une importante société. Alors c'est un comble ça. Vous étiez censé évaluer les risques alors que vous-même, vous étiez en train de vous y enfoncer.
Oui, mais finalement, ça me permettait de bien les recenser et de malheureusement me rendre compte que, effectivement, c'était dans le BTP. L'alcool y est très présent. Moi-même, j'étais en plein dedans. Par contre, plus vous gravissez la hiérarchie des cadres supérieurs, plus vous cachez. Forcément, vous êtes là pour montrer l'exemple. Et je me rendais compte sur les chantiers, dans les cabanes de chantier, que les bouteilles traînaient. Mais il n'y a pas que l'alcool. Pour les femmes, il y a aussi les psychotropes. Et puis après, il y a le cannabis pour les jeunes. Et je voyais les courbes des accidents de travail s'aggraver. Et effectivement, je vais mettre en lumière, moi, ma maladie de l'alcoolisme. Et mon témoignage, je pense, va servir aujourd'hui dans des mondes professionnels, mais également le vôtre, Aurélie, tout ce qui est journalisme, etc. J'ai de plus en plus, moi, des retours. L'alcool devient de plus en plus un problème.
Effectivement, mais j'ai l'impression, alors Christine Joly, vous pourrez peut-être nous répondre, j'ai l'impression que ça s'est généralisé et c'est mon sentiment que la femme boit de plus en plus et que ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges. Comment vous pouvez en parler, vous, en tant que chef de service de l'US2A CHV?
Je ne sais pas si les femmes boivent plus qu'avant, mais peut-être qu'aujourd'hui elles s'autorisent plus à en parler. Parce que souvent l'alcool chez la femme c'est un alcool caché, elle traîne pas trop dans les bars d'une manière générale quand elle tombe dans le piège de l'addiction. Ce que je peux dire c'est que moi dans le service globalement c'est sûr qu'il y a plus d'hommes, on a un service de 36 lits qui va passer à 37 dans un mois et demi, on a à peu près une femme pour 4 hommes, voire une femme pour 3 hommes dans le service, donc c'est 25-30%. C'est un petit tiers qui vient se faire soigner. Après, sur le plan épidémiologique, il faudrait une étude anonyme sur la consommation et se rendre compte. Il est certain que je pense que les générations d'aujourd'hui consomment peut-être plus que nos grands-mères, ça c'est sûrement, parce qu'il y a la vie professionnelle qui est différente, la vie sociale qui est différente que la génération, 3 générations au-dessus de nous. Mais en dehors de ça, il y a toujours une difficulté à parler d'alcool et une difficulté à venir se faire soigner. C'est sûr que la première approche qu'on a avec les femmes qui ont des soucis avec l'alcool, c'est déjà de travailler sur la honte.
Oui, oui, oui.
Mais la honte existe aussi chez les hommes. Mais il y a un moment où la femme va plus se renfermer sur elle-même, l'homme un petit peu moins, et un petit peu un décalage. Mais sinon, on arrive à exactement le même scénario.
Comment on peut expliquer ça? Ce sont les mœurs et traditions qui font que l'homme boit et la femme est censée rester saine à la maison. C'est quoi? Pourquoi la femme aurait plus honte que l'homme?
La honte, elle existe chez les deux. Ouais. Simplement, il y a un petit décalage dans le temps. La femme va avoir honte plus vite que l'homme.
D'accord.
Voilà, il y a l'aspect culturel de nos cultures, de d'autres sociétés. Je veux dire, l'alcool est présent dans le service militaire à une époque. Enfin voilà. Je veux dire, ça a toujours existé.
Alors moi qui ai été militaire pendant 5 ans, je vous assure, même chez les militaires engagés, il y a beaucoup, beaucoup d'alcool. Oui. Alors Laurence Côté, je sais que l'un de vos chevaux de bataille, on peut les mettre au pluriel, et c'est pas pour rien que j'emploie le terme de chevaux, puisque l'équitation est l'un de vos exutoires, mais je sais que vous êtes particulièrement touché par l'alcoolisme chez les jeunes et ce fameux shooting express, je sais plus comment vous l'appelez.
Binge drinking.
Voilà, le binge drinking. Alors, qui consiste
ou plus récemment, le neck nomination, ou encore plus récemment, les soirées cartables.
Alors on peut en parler?
Ah oui, c'est une alcoolisation différente de celle que j'ai connue, parce que celle-là, elle est violente, elle est en groupe, elle est donc ponctuelle, elle a des risques beaucoup plus, de, beaucoup plus dangereux, mais ça, Christine en dira un mot. Et c'est un jeu, surtout. C'est-à-dire, les jeunes prennent maintenant l'alcool pour s'enivrer. Et par jeu, c'est celui qui consommera le plus vite, dans un court, un laps de temps très court, et qui tiendra la route. Et après, c'est Rambo, quoi, c'est moi le meilleur. Donc, l'alcool est devenu un jeu. Et j'ai compris aujourd'hui, moi à l'époque je me suis alcoolisée très jeune aussi à leur âge, hein, vers 16-17 ans, mais je ne savais pas qu'à l'époque, cette espèce d'os-là, le cortex frontal, n'était pas formé, et que donc ces jeunes qui jouent sont en train de préparer leur cerveau à la dépendance.
Ils sont en train de se prédisposer en fait, hein, Christine Joly.
Tout à fait, il faut savoir que le cerveau humain, notre cortex, est terminé vers l'âge de 20 ans. Donc, il faut faire très attention avec l'alcool, puisque la dépendance aux produits, que ce soit l'alcool ou certains médicaments, que ce soit l'héroïne, la cocaïne, intervient sur le plan neurobiologique au niveau neuronal. Or, si notre cerveau n'est pas encore mature, le risque de devenir dépendant est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, sur un adulte qui va débuter à rencontrer l'alcool après 20 ans, si après, dans son histoire personnelle, il a besoin de l'alcool pour se soutenir dans ses difficultés de vie, il va développer une dépendance sur une dizaine d'années. Mais sur un jeune qui va démarrer de manière excessive avant 16-17 ans, sa dépendance, elle va se déclarer en 3-4 ans. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc on voit dans les services un rajeunissement de la population qui demande à être soignée.
Oui, et j'imagine qu'il y a chute et rechute chez ces jeunes-là, justement. Difficile de se rééduquer quand on est jeune ou...
Non, après, la notion de rechute, c'est autre chose. Hein, c'est pas spécifique à l'âge. Après, c'est la démarche de soins que chaque individu va faire.
Va mettre en place. Donc vous, Laurence, hein, vous êtes passée par un coaching individuel. L'entreprise qui vous a gentiment accompagnée vers la porte de la sortie a quand même participé finalement à cet accompagnement, en tout cas dans un premier temps. Ce coaching personnel, alors, comment s'est-il déroulé ?
J'ai eu cette chance, après ma chute public, de rencontrer 2-3 jours après un médecin alcoologue, un vrai spécialiste. Il a eu des mots justes pour m'expliquer que l'alcoolisme est une maladie. Je ne le savais pas, figurez-vous. Donc j'étais toujours dans cette honte, j'étais plus du tout dans le déni. Hein. Je savais que j'étais alcoolique déjà depuis 3 ans. Par contre, j'étais enfermée dans cette honte qui est donc beaucoup plus terrible chez la femme que chez l'homme. J'ai mis 3 ans pour enfin franchir le seuil d'un médecin alcoologue, mais parce que j'avais pas le choix, j'étais tombée au bas de l'échelle des risques. Bon. Donc ce médecin me dit, vous êtes malade, madame. Vous n'êtes pas responsable de cette chute. Vous êtes tout simplement droguée. On va vous soigner. Votre cas n'est pas désespéré. Et cette personne me prend en main. Vous savez... L'alcoolisme n'est pas une question d'intelligence. Quand vous parlez à un malade dans des mots aussi simples, il va comprendre, il va donc tout de suite se déculpabiliser, il va commencer à parler et il va se sentir pris sur un plan médical. Et donc cette image qui était la mienne, hein, d'une pochetronne, d'une femme débauchée, donc j'étais sur une morale négative, je l'ai vite oubliée. Mais par contre... Très vite, ce médecin a enclenché le travail psychologique, hein, parce que on ne peut pas s'en sortir seul. Il y a eu le sevrage au produit, c'est pas le plus compliqué, mais c'est surtout tout de suite se mettre sur le plan psychologique. Hein. Et ça, moi, j'ai été aidée. Hein. Ceci dit, faut-il tomber aussi profond ? C'est le sens de mon témoignage aujourd'hui. Beaucoup de gens resteront au fond ou n'arriveront pas à recoller les morceaux. Donc il y a une part de chance dans mon parcours et c'est la raison pour laquelle j'en parle, hein, pour dire, faites ce que j'ai pas osé moi faire tout de suite, j'ai tardé pendant 3 ans, franchissez la porte d'un médecin alcoologue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que l'on parle donc des services de Christine Joly.
Oui, parce qu'on n'est pas effectivement obligé de toucher le fond ou d'attendre la maladie physique, puisque l'alcool en engendre des maux physiques. On peut mourir d'une cirrhose, d'un pancréas malade, ou enfin, je ne sais pas, peut-être, docteur Joly, peut-être pourriez-vous en parler de ces maladies et témoigner du fait que ben, on n'est pas obligé d'attendre de toucher le fond, tout simplement.
Alors, dans la prise de produits d'alcool, il y a plein d'incidences. Hein. Il y a d'abord toutes les maladies somatiques hein, qui vont toucher le foie, le pancréas, tous les organes digestifs, l'œsophage avec la cancéro, l'association au tabac, alcool-tabac au niveau des cancers ORL. Les problèmes intestinaux ou une malabsorption qui va engendrer des complications neurologiques, style la polynévrite des membres inférieurs, donc là, aussi au niveau de la névrite optique. Donc l'alcool, à force de consommation, peut évoluer sur donc, des cirrhoses, des pancréatites, un certain nombre de cancers. Un tiers des cancers sont liés à la consommation de produits. Les polynévrites, on peut être paraplégique dans un fauteuil à cause de l'alcool, on peut devenir aveugle à cause de l'alcool. On peut devenir dément, hein, une démence alcoolique, hein, ce qu'on appelle la démence de Korsakoff ou le Guillain-Wernicke qui est une forme aiguë du Korsakoff. Donc qui est un peu l'équivalent, si je fais une comparaison, parce que tout le monde le connaît, c'est la démence d'Alzheimer, mais c'est induit par l'alcool, avec un stade où à un moment c'est plus réversible, c'est-à-dire la pathologie, malgré l'arrêt de l'alcool, eh ben, elle est un handicap total.
Oui.
Voilà. Donc, et l'alcool est quand même la première cause de mortalité avant 60 ans en France.
Qu'est-ce que vous préconisez alors que suite à un témoignage, un livre lu, une parole entendue, comment pourriez-vous conseiller nos auditeurs si toutefois ils se disent mince, je suis peut-être sur une pente douteuse, enfin en tout cas dangereuse. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire faites-le dès que vous le pouvez.
Alors il faut savoir que sur le plan épidémiologie, il y a 5 millions de gens en difficulté avec l'alcool. Quand on dit 5 millions de gens, c'est au niveau des adultes. Donc c'est, j'irais, après 20 ans à 75 ans, 80 ans. Donc 5 millions, c'est énorme, c'est un adulte sur 10. Et sur ces 5 millions de gens, il y en a 2 millions qui ont une dépendance physique, ce qui est encore un autre aspect, c'est-à-dire qu'on peut avoir des complications somatiques, comme je les ai citées tout à l'heure, mais aussi une dépendance physique, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui réclame l'alcool. C'est un phénomène neurobiologique, et c'est dans ce sens-là où c'est une véritable maladie, où il y a des tremblements après... Au-delà de 6-7 heures d'arrêt d'alcool, s'il apparaît alcoolisation ou réhydratation sous une forme ou une autre, il y a des tremblements, des hallucinations visuelles et un tableau de déshydratation aiguë, ce qu'on appelle le fameux délirium tremens. Hein. Donc l'alcool, c'est la seule drogue, lorsqu'on s'arrête sans prendre de précautions, on en meurt, ce qui n'est pas le cas des opiacés. Parce que dans le cas d'un sevrage sauvage aux opiacés, les gens seront très mal, seraient très anxieux, seront peut-être agressifs, etc. Mais il n'y a pas de risque vital.
Mais ça passe.
Alors qu'à l'alcool, c'est un risque vital. Donc, sur ces 5 millions de gens qu'on vient de citer, il y en a 2 millions qui ont une dépendance physique. Donc, il est important de prendre ses précautions quand on arrête de boire. Donc, il faut absolument que les gens aillent voir leur médecin traitant s'ils sont dans une démarche d'arrêt et de faire un bilan d'addicto. Le médecin généraliste est très bien placé pour le faire, pour évaluer le risque d'un arrêt brutal d'alcool. Il faut faire très attention. En sachant que sur ces 5 millions au total, que ce soit les 2 millions de dépendance physique ou ceux qui sont excessifs et ce qui fait 5 millions, il n'y en a que 17% qui se font soigner, qui font une démarche de soins. En sachant qu'il y a d'autres pathologies chroniques évolutives qui, tous les patients vont se faire soigner. Donc on est dans une pathologie où il n'y a qu'un patient sur 5 ou sur 6 qui se fait soigner. Donc un service comme Valence, on est 4 médecins qui travaillons. Faut savoir qu'il y a des CHU qui n'ont pas l'équivalent. Il manque de services d'addictologie en France pour pouvoir... Parce que si tous les patients se faisaient soigner, comme d'autres pathologies chroniques, il faudrait un service d'addicto dans tous les hôpitaux généraux de France.
On va parler de votre service hein, d'addictologie, Christine Joly, mais pour le coup, j'ai envie de me retourner vers Laurence. Et vous, avec vos mots à vous, Laurence, que diriez-vous à des personnes sur cette pente, justement, qu'est l'alcoolisme qu'auriez-vous envie de leur dire?
Une pente, on peut y être à tout moment, n'importe qui, quoi. Hein, c'est ça qui est terrible dans cette maladie, c'est que finalement, elle est silencieuse. Elle est à portée de tout à chacun. Donc en quelques mots, c'est de dire, si vous ressentez à nous écouter, toutes les trois, ou suite à la lecture du livre « Non, j'ai arrêté », puisque je pose des questions, c'est un livre interactif, si vous avez un doute sur votre consommation d'alcool, sur votre relation avec l'alcool, si vous pensez que vous êtes dans l'excès ou dans la dépendance, parce que là, on est drogué, c'est ce que j'ai été, effectivement, n'ayez pas honte de parler, puisque c'est une maladie. Moi, j'aime beaucoup cette comparaison. Je ne vois pas pourquoi un diabétique peut parler de son taux de glycémie en disant « je surveille 2-3 fois par jour ». Et pourquoi moi, je ne peux pas vous dire « écoutez, moi, c'est tous les jours maintenant, je dois surveiller mon taux d'alcoolémie qui doit être égal à zéro ». C'est une maladie. Et pour les gens qui comprennent que c'est une maladie, ça n'est pas non plus une maladie honteuse. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un doute, allez voir une personne qui vous écoutera. Alors ça peut être le médecin traitant, mais ça peut être la gynéco pour une femme. Allez voir la personne avec qui vous êtes à l'aise. Moi, je suis de plus en plus impressionnée par les services d'addictologie. Donc je suis enchantée qu'on en parle aujourd'hui. Ils sont insuffisants. Moi, finalement, quand j'ai appelé celui à Paris, il n'y a plus de place pour moi, quoi. Ou alors il fallait un mois et demi. En attendant, j'ai tout perdu. Donc en quelques mots, sortez de la honte et tout naturellement, parlez de votre problème d'alcool si vous en avez un.
Merci. Alors, on va se tourner justement vers cette unité de soins en alcoolologie et addictologie du centre hospitalier de Valence. Donc visiblement, il s'y passe des groupes d'entraide et de parole. Je vous laisse peut-être intervenir.
Oui, ce que je voulais rajouter, ce que j'ai développé sur le côté épidémiologique, parce que ça me paraissait important, et par rapport aux 17% des patients qui vont se faire soigner parce qu'il y a un moment, ils ont touché le fond, un livre comme Laurence Côté est intéressant parce que ça peut aider les autres, les 80% autres, à se poser des questions. Et c'est un livre qui est ouvert, qui est simple, et qui est aussi un témoignage de père. Et c'est vrai que nous, professionnels, on est un peu comme des parents, on dit attention, que ce soit le médecin généraliste, que ce soit un neurologue, que ce soit enfin tous les professionnels qui sont amenés à soigner des gens qui ont un problème somatique lié à leur consommation d'alcool. Par contre, le fait qu'il y ait un témoignage de quelqu'un qui a un vécu, c'est très important parce que du coup, c'est comme un frère et une sœur qui va dire attention, fais attention à ce que tu fais. Et donc, du coup, ça ouvre la porte à ce qu'on essaye de faire, nous, toutes les associations d'entraide, ont cette faculté, cette place, en tout cas, à cette place pour pouvoir dire attention à l'alcool. Nous, les professionnels, on est des gens où c'est notre boulot d'amener la bonne parole, entre guillemets.
Oui.
On est souvent perçu comme ça. Mm-mm. Et c'est pas toujours cette voix-là qui est entendue. C'est aussi la voix de témoignages de gens qui s'en sont sortis, qui racontent aussi jusqu'où ils ont été et comment ils s'en sont sortis, qu'importe leur méthode. Mais c'est surtout qu'il y a des gens qui s'en sortent. Et il y a énormément de gens qui s'en sortent.
Voilà,
et ça, c'est pas dit.
On va rester optimiste, effectivement. D'ailleurs, Laurence en est une preuve vivante. Et on la remercie de faire autant de bruit, j'ai envie de dire. Effectivement, ce livre « Non, j'ai arrêté » permet la prise de conscience. Alors, je ne sais pas s'il permet un sevrage, un suivi, les tableaux, tout ça, tout est bien. Ce sont des petits outils, vous offrez des outils, vous mettez une panelle d'outils à disposition. Mais je pense qu'effectivement, il faut oser aussi aller voir des professionnels. L'un ne va pas sans l'autre, on est d'accord. Et justement, alors on va revenir à cette unité de soins en alcoolologie et addictologie de Valence, si vous le voulez bien. Christine Joly, que s'y passe-t-il? Alors, je crois savoir qu'il y a des groupes d'entraide de parole, il y a du sevrage ambulatoire en séjour aussi.
Alors, par rapport au sevrage ambulatoire, non, c'est l'ANPA qui le fait, c'est les XAPA maintenant.
D'accord.
Donc, nous, on est vraiment spécialisés dans le domaine de l'hospitalisation. La plupart des patients ont souvent fait des démarches de sevrage ambulatoire. Soit ils l'ont fait dans leur intimité d'environnement, soit ils ont été déjà voir des professionnels de la addictologie. Donc c'est les XAPA, il faut savoir qu'il y en a un ou deux par département. Sur la Drôme, il y en a un qui a orientation alcool et l'autre qui a orientation toxicomanie. Mais ça, c'est l'ANPA national, l'Agence nationale de prévention des addictions, qui est gérée sur l'ensemble du territoire. Donc il y en a dans tous les départements. Donc il y a des permanences médicales où il y a des médecins, des psychologues, des assistantes sociales, des éducateurs qui viennent là qui sont à l'écoute des patients. Donc il y a plein de patients qui vont d'abord faire cette démarche. Après, l'hospitalisation, c'est s'il y a eu échec ou si les gens sont dans un état, quand la prise de conscience, quand le patient se dit « j'en peux plus », Il y a aussi des états physiques et psychiques qui nécessitent que les gens soient hospitalisés. Donc voilà, l'addictologie, c'est tout un maillage de partenariats qui va du généraliste en passant par les psychiatres, les psychologues de ville, mais aussi donc l'ANPA et ensuite les services d'addictologie hospitalière. Comme dans d'autres pathologies, on a un souci cardiologique, au début on peut très bien être pris en charge par un cardiologue de ville avant de passer par une structure hospitalière.
Donc voilà, je suis alcoolique, j'arrive, j'ai besoin de me faire sevrer, j'arrive à l'unité de soins donc du centre hospitalier de Valence. Comment je suis prise en charge?
D'abord, ça passe par une consultation. Les services hospitaliers addictos comme les autres, c'est pas des services d'urgence. Hein. Donc aux urgences,
on
oui, on arrive. On arrive, c'est ouvert 24 heures sur 24, donc on n'arrive pas dans un service en disant « je veux un lit ». Non, il y a une demande de consultation. Donc après, il y a le problème du délai, parce que même on est 4 médecins, enfin on était 3, on va être 4, donc il y a des plages de consultation. Et donc nous, on a ciblé nos consultations pour préparer les gens, soit pour d'abord faire un bilan de leur addiction et de leur histoire avec l'addiction, et de savoir s'il y a une indication à ce qu'il y ait une hospitalisation pour que le sevrage déjà physique se fasse dans de bonnes conditions. Nous, on propose systématiquement qu'il y ait un suivi psychologique de 3 à 4 semaines, de 4 semaines environ. Tout ça pour profiter de ce sevrage hospitalier suivi d'une prise en charge psychologique de groupe. Donc, et c'est important par rapport au patient. Donc la consultation, le patient vient en consultation et c'est nous médecins qui décidons s'il y aura hospitalisation, si on le propose ou on ne le propose pas. D'abord il y a l'indication, puis après c'est convaincre le patient. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens où nous on voit que c'est important qu'ils soient hospitalisés, mais ils ne sont pas prêts. Donc on va les revoir plusieurs fois en consultation, on va établir ce qu'on appelle le lien thérapeutique pour qu'ils aient confiance, qu'ils aient envie de nous revoir après la première consultation en leur expliquant qu'il y a l'ANPA, il y a nous, il y a des associations d'entraide. Voilà, en général, il y a une petite plaquette où il y a toutes les adresses et téléphones des uns et des autres sur l'ensemble du département et qui peuvent ensuite réfléchir. Et ensuite, ils reviennent, si on refixe une consultation. Et après, on redébriefe sur cette première consultation, voir comment ils ont vécu cet entretien. Et ensuite, petit à petit, ils se disent « je vais être hospitalisé ». Donc après, on les met en liste d'attente. Donc à partir du moment où il y a décision entre le patient et le médecin d'une hospitalisation, le patient est mis en liste d'attente, il y a à peu près encore 3 semaines de délai. Parce qu'on a une liste d'attente. Hein.
Oui, et oui, il y a du monde puisqu'il manque de services, hein. Bah, on est d'accord.
En sachant que déjà, à Valence, on soigne 90% des gens qui sont de la Drôme et de l'Ardèche. Et principalement de la Drôme centre et nord.
Oui.
Puisque sur le sud, c'est plutôt le service d'addictologie de Montélimar qui prend en charge avec aussi l'équipe d'addictologie des Alizés à Privas. Donc nous, il y a 2 secteurs d'hospitalisation, le centre nord-Drôme et le sud.
D'accord. Donc après l'accompagnement, hein, selon le temps que vous aurez défini avec le patient.
Donc les indications d'hospitalisation, ce sont des indications somatiques, et puis aussi la dépression. C'est des épuisements psychiques. Il y a des gens qui, de toute façon, en arrêtant, ont besoin d'être hospitalisés pour être encadrés, parce que chez eux, c'est trop difficile. Soit parce qu'ils sont tout seuls, soit parce qu'il y a aussi des charges familiales. Souvent, ils sont déjà en arrêt maladie quand ils viennent nous voir. Soit il faut mettre un arrêt maladie parce que le sevrage ne peut pas se faire en travaillant. Donc il y a aussi des indications, aussi, il y a aussi des ambiances environnementales qui sont délétères pour le patient. Donc il vaut mieux qu'il vienne un petit peu se reposer dans une hospitalisation. Donc on a dans nos patients, tous n'ont pas des problèmes somatiques graves, loin s'en faut. Il y en a beaucoup qui vont bien somatiquement, mais qui viennent en hospitalisation pour aussi se reposer psychiquement.
D'ailleurs, Laurence, vous expliquez hein, dans « Non, j'ai arrêté hein, », cette fameuse fatigue, hein, vous êtes épuisée d'arrêter de boire.
Chaque personne a son histoire,
oui. Hein,
et donc a ses souffrances et ses symptômes. Hein. En ce qui me concerne, je suis épuisée de des pressions, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales. Je ne peux plus supporter cette vie qui ne correspond plus. Je le sais aujourd'hui, hein, à l'époque j'étais perdue, hein, j'étais perdue, mais je ne supportais plus cette pression. Tout à l'heure le docteur Joly a dit « oui, on peut reboire si on est seul ». En fait moi je me rends compte que j'ai vraiment commencé mon travail psychologique et donc j'ai vraiment arrêté durablement de boire à partir du moment où je suis seule, sans plus ces pressions. Hein. Mais c'est mon histoire. Hein, aux médecins et aux psychologues à découvrir quel est le contexte le meilleur pour le malade. mais on peut s'en sortir.
Je vous laisse poursuivre, docteur Joly.
Oui, donc comment se déroule le séjour? Donc quand le patient rentre, il y a à peu près, on fait des entrées dans le service du lundi au vendredi, et il y a à peu près entre 5 et 10 jours de sevrage. Et ensuite, le lundi qui suit leur entrée, ils vont débarrer 4 semaines de psychothérapie de groupe. En sachant que ce que nous on fait à Valence, ça se fait dans tous les services d'addictologie en France. On n'a pas rien de spécifique sur Valence. Hein. C'est ce que pratiquent tous nos collègues en institution, qu'ils soient privés ou publics. Donc c'est des activités de groupe qui sont orientées sur 3 choses. Sur l'éducation thérapeutique. C'est des éducations thérapeutiques, c'est expliquer la maladie. Donc souvent c'est les infirmières qui le font dans le service. C'est les entretiens motivationnels et stratégiques, c'est-à-dire que c'est important de prendre en charge, de se convaincre que le patient arrive à se convaincre que c'est important d'arrêter et comment arrêter. C'est-à-dire que quand il va se projeter dans l'extérieur, dans sa famille, dans ses amis, qu'on va l'inviter à boire un verre, comment il va dire non. Donc on a des groupes de parole avec des petits super vidéos qui, par groupe de 5-6 patients, vont un petit coup faire les commentaires. Et ça, c'est animé par l'équipe infirmière du service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout l'aspect éducation thérapeutique. Et après, il y a les groupes avec les psychologues, où là, les patients sont invités par les psychologues du service à parler de leur passé ou du présent, mais en tout cas de ce qui fait souffrance derrière l'alcool. Parce que c'est pas le tout d'arrêter le produit. Le produit a toujours été une solution, comme souvent pour rentrer en lien avec le patient qui, quand il vient nous voir en consultation, il est très sur la défensive. Moi, je dis, mais l'alcool, ça a été votre meilleur psy pendant des années. Donc, on enlève une molécule qui est antalgique. Qu'est-ce qu'on va mettre à place? On va éviter le plus possible de mettre des médicaments en tant que tel. Pour la suite, il y a les médicaments du sevrage pendant les 10 premières semaines, qui est toujours un benzodiazépine pour éviter crise d'épilepsie ou les états de délirium tremens. Hein, donc selon le degré, il y aura telle ou telle molécule, mais c'est un benzodiazépine. C'est la conférence de consensus de 1999 sur le sevrage alcoolique. Donc ça, c'est un consensus qui est national. On sait tous les professionnels de santé se sont mis d'accord. Donc on n'invente rien dans les services. On applique des protocoles qui nous ont été enseignés par nos pairs. Voilà. On n'a pas le droit, dans un service d'hôpital général, de faire de la recherche. On n'est pas CHU. Ça, c'est important.
Oui, donc vous êtes obligé d'appliquer des protocoles.
Voilà. Donc les médicaments sont là pour aider le patient au moment du sevrage. Après, il y a des angoisses. Il peut y avoir des épisodes de dépression, tout en sachant que dans la majorité des patients, l'arrêt de l'alcool est déjà un antidépresseur. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup mieux. Mais certains ne vont pas très bien. Donc, on va peut-être être amené à prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques au-delà du sevrage. Donc, parallèlement, il est important de mettre la parole et que les psychologues du service, quel que soit, que ça soit à Valence, mais dans tous les services addicto, il y a des psychologues pour aider le patient en groupe à évoquer leurs souffrances du présent ou du passé. On se rend compte que, par analyse épidémiologique, quand on fait de la recherche clinique, on se rend compte que les patients ont des grosses souffrances psychiques pour lequel l'alcool a été leur solution.
Et d'ailleurs, on parle de l'alcoolisme comme d'une maladie, et on peut le dire un petit peu pour toutes les maladies, mais la maladie, c'est aussi le mal à dire. Donc là, le fait de verbaliser permet de sortir de cette maladie et de ce mal à dire.
Tout à fait, et c'est d'autant plus important de le faire après le produit, après l'arrêt du produit. Le sevrage d'alcool, c'est 8 jours. Le patient, sur plan somatique, il est bien, mais dans sa tête, il n'est pas guéri. Sur plan somatique, il est stoppé. Mais justement, le problème de la rechute, c'est parce qu'il y a le mal-être qui repointe son nez, au retour à domicile. Donc il y a plein de patients qui sont... Les sevrages ne se font pas qu'en service d'addictologie. Un sevrage d'une semaine avec une bonne réhydratation du valium, des vitamines, une bonne alimentation aussi, se fait dans tous les services. De médecine, de chirurgie, de psychiatrie, mais c'est l'après. La rechute, c'est parce qu'il y a rechute, parce qu'il n'y a pas eu prise en charge des souffrances que l'alcool a masquées pendant des années. Et ça demande une prise en charge psychologique importante qui est initiée en institut, qui peut être initiée dans le cadre d'un sevrage hospitalier, mais qui doit être poursuivie au moins 18 mois.
Et alors là, pour le coup, est-ce que cette unité de soins de Valence, donc cette US2A-CHV, propose ce suivi post-hospitalier?
Nous, on ne peut pas tout faire. Oui. Hein. On est spécialisé dans le sevrage et la prise en charge d'une cure institutionnelle de 4 semaines. Donc, tout le personnel, il s'occupe des gens hospitalisés. Donc, nous, on ne peut pas faire le suivi. Donc, on fait le suivi sur plan médical pour faire des bilans à un mois, voire un peu plus, et puis au-delà. Enfin, après, c'est la consultation médicale et le patient. Mais c'est important qu'après, il y ait des relais psychologiques. Donc, l'ANPA fait partie de nos relais. Les CMP, centres médico-psychologiques du secteur psychiatrique, sont aussi nos partenaires. Et de même que les psychothérapeutes libéraux. Ils ont leur place.
Oui.
Mais c'est déjà faire comprendre aux patients qu'il est important d'avoir un suivi. C'est un starter dans le service. Mais nous, on ne peut pas faire le suivi à 18 mois. Ce n'est pas possible.
Ouais, ouais. En tout cas, vous ne les lâchez pas non plus comme ça, ces patients. Vous leur proposez un panel de possibilités pour continuer ce travail enclenché en hôpital. J'imagine que on ressort.
Ils ressortent avec un carnet d'adresses, voilà. Un carnet d'adresses. Surtout, les inviter à bien reprendre contact avec leur médecin traitant, parce que c'est aussi le médecin traitant, c'est le premier qui est en première ligne. Et s'il y a rechute, c'est le premier médecin qui va être au courant. Parce que je veux dire, d'abord, les délais de consultation en médecine générale sont quand même plus courts, largement. En 2-3 jours, vous avez votre médecin généraliste, alors que le médecin addictologue hospitalier, vous l'aurez au bout d'un mois. Mm-hmm. Parce que sa mission, c'est de soigner les gens qu'il a fait hospitaliser. C'est de travailler en dedans. Parce que s'il est toujours à l'extérieur, il n'est plus dans son service. Hein. Mm-hmm.
Merci pour toutes ces précisions. Alors Christine Joly et puis vous aussi, Laurence Côté, aujourd'hui on réalise que un gros pourcentage de la population est touchée par cet alcoolisme, mais pas que d'ailleurs, et que dans ces unités de soins, visiblement, il y a des listes d'attente qui sont longues. Alors comment toutes les deux, peut-être vous aurez la réponse, vous pouvez expliquer qu'en France, on manque d'autant de professionnels autour de l'alcoolisme et de l'addictologie en général?
Alors les professionnels, ça, on les forme. C'est pas, ça peut se résoudre. Par contre, il faut des lits. Actuellement, il y a 1500 lits d'addictologie sur l'ensemble du territoire, face aux 5 millions de gens en difficulté avec l'alcool.
1500.
En sachant que c'est pas les 5 millions, on n'a pas besoin d'être hospitalisé, on est bien d'accord. Attention, il y a à peu près 80 000 sevrages par an dans les milieux à l'hôpital. Mais les 80 000 sevrages hospitaliers ne sont pas assurés par les 1500 lits d'addictologie. Par contre, il y a plein de gens qui ont des sevrages à l'hôpital, mais qui n'ont pas de suivi psychologique, qui vont rechuter illico presto.
Mm-hmm. Bon, on va parler de vous, Laurence, puisque vous êtes d'ailleurs présentée dans un service d'urgence où vous étiez vraiment mal. Mm-hmm. Alors peut-être vous pouvez évoquer ce témoignage.
Donc ça se passe à Paris. C'était à l'issue d'un repas d'affaires. Vers 15h30, je quitte un groupe en prétextant un autre rendez-vous, ce qui était faux. J'étais simplement en manque d'alcool. J'étais déjà droguée. Et donc là, c'est vrai que c'est très trop parce que je rentre dans un bistrot. Je crois que la main part et on ne s'arrête plus. Et je vais me retrouver... J'avais des psychotropes dans mon sac. Je les ai avalés et je me retrouvais quasiment morte sous un porche dans le 16e. Là, on va me récupérer une ambulance et donc j'arrive dans un service d'urgence. Je peux dire, c'était à l'hôpital Bichat. Et on va me sauver physiquement, je sais pas trop, mais bon, j'ai des souvenirs où j'ai la... je sais plus trop. Et puis là, par contre, je vais rester quand même 48 heures parquée sur un brancard. Et comme je me suis levée assez rapidement, je me souviens que je voulais ouvrir les fenêtres pour partir, parce que j'ai pas eu justement le soutien psychologique. Moi, je voulais parler à quelqu'un, finalement. Et donc, comme on peut pas ouvrir les fenêtres, on est enfermé, on va m'attacher à un lit. Après, les heures sont pénibles, parce que je pleure, j'entends. Alors là, c'est fou, j'entends une voix. Alors, c'est un urgentiste ou je sais pas qui. Au moment de la relève. Maintenant je découvre tout ça, puisque je suis en stage, donc je sais ce que c'est une relève. Et j'entends une dame qui dit, celle-là, c'est une débauchée. Elle a fait un coma éthylique, tu la surveilles, peut-être une TS, un truc comme ça. Et ça va durer 48 heures. Et comme j'insiste, on va me libérer. Mais j'étais très très mal, forcément. Mais j'avais compris aussi que j'étais pas gratifiante à soigner. Et je le comprends, je fais pas de reproches aujourd'hui. C'est simplement que beaucoup n'ont pas forcément une très belle image d'une femme ou d'un homme dans cet état d'alcoolisation. Et je le comprends. Et finalement, on me libère. J'aime bien cette comparaison. Je ne suis qu'un numéro. C'est comme une levée d'écrou. Et bien entendu, je reviens chez moi. J'ai honte en me disant, mon Dieu, j'ai loupé 24 heures au boulot aussi. Je n'avais pas donné de nouvelles. J'avais voulu prévenir personne. Et finalement, le soir, je rebois.
Mm-hmm. Livré à vous-même.
Hein. Pour oublier ce qui s'était passé. Et là, c'est dommage. Je crois qu'on a loupé un rendez-vous. Je ne pense pas que ce soit vraiment tout à fait de ma faute. J'ai attendu qu'on vienne me parler. Bon, il y a peut-être que vous en direz en mots, mais je n'ai pas eu la parole qu'il fallait dans ces services d'urgence. Dans ce service d'urgence.
D'ailleurs, Christine Joly, hein, vous avez été médecin urgentiste pendant une décennie.
Tout à fait.
Comment vous les abordiez, ces débauchés?
D'abord, j'ai travaillé dans un établissement général où il y avait une très bonne ambiance entre nous. Donc, il y avait beaucoup de respect vis-à-vis du patient. En même temps, ce genre de phrase, moi, je n'ai pas uniquement travaillé aux urgences de Romans, j'ai travaillé dans des urgences de CHU, dans d'autres hôpitaux généraux. Donc, c'est des termes qu'on a entendus. C'est toujours choquant. Mais c'est aussi pour expliquer, c'est qu'il y a des fois tellement de stress que le malade alcoolique, parfois, on l'oublie. Tout en sachant que finalement, sur 100 personnes qui passent dans un service d'urgence, que ce soit à Romans ou à Valence, vous en avez 60 qui ont une alcoolémie positive. Donc, de toute façon, vu la masse de gens, s'il n'y a pas de problème somatique, s'il n'y a pas de fracture, s'il n'y a pas de traumato, s'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas d'hyperthermie, donc la personne qui arrive avec simplement une alcoolémie élevée et hyper somnolente, elle va être mise dans un coin. Donc c'est aussi le surbooking des services des urgences qui fait qu'on accueille très mal les patients.
Oui.
Voilà. Après, il y a actuellement, en 10-15 ans, les services d'urgence ont ouvert des unités, ce qu'on appelle des unités un petit peu de post-urgence. C'est-à-dire qu'on garde les gens 24 heures, 48 heures. Et depuis 2002, les pouvoirs publics ont créé des équipes de liaison. Parce que même en post-urgence, le personnel est quand même un peu limité, et surtout est axé sur le soin somatique, donc pas dans l'écoute. Et donc c'est pour ça qu'on a créé des pouvoirs publics, hein, ont créé des équipes de liaison, où c'est fait d'infirmières, de médecins et de psychologues, qui interviennent principalement, c'est souvent le premier service, c'est les urgences, pour prendre le temps de parler avec le patient. Mais ils existent, en 2002 c'était sur la région Rhône-Alpes, la première équipe c'était à Chambéry. Après, petit à petit, ça a mis 10 ans. Les dernières équipes qui ont été créées en équipe de liaison, c'est le CHU de Lyon.
Lyon.
Équipé. Donc, nous, on est arrivé au milieu. On a une équipe de liaison depuis 2006-2007. Et on a d'abord été à Valence, puis après à Romans. On intervient sur l'hôpital de Romans. Donc là, j'ai retrouvé mes anciens collègues. Allez. Ça se passe très bien. Donc, mais voilà. Il faut aussi du temps, des moyens. Il faut aussi casser les tabous. C'est pas même les équipes de liaison. Je vois mes collègues d'équipe d'un établissement psychiatrique lyonnais ont eu beaucoup de mal aussi à se faire accepter, y compris en psychiatrie. Mieux somatique au niveau des urgences, non. Au contraire, on est très bien accueillis, les équipes de liaison, parce qu'ils ont tellement pas le temps de parler avec les patients qu'ils sont bien contents qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Voilà. Déjà, il y a une histoire de temps, avoir du temps. Et l'addictologie demande du temps. Une prise en charge d'un patient qui souffre d'addiction, il faut du temps. Aux urgences, il n'y a pas le temps. Vous avez 100 personnes, donc il faut répondre à l'urgence.
Oui, oui. Et puis au mal somatique, comme vous le disiez très bien, c'est la première urgence, hein, tout simplement. En tout cas, vous glissez, hein, vous aussi, mais vers cette unité de soins. Alors comment vous faites la transition?
Aux urgences, il faut régler les problèmes aigus. Donc, à un moment donné, il y a une évolution de carrière qui a fait que j'avais envie d'approfondir les gens que je prenais en charge. Donc, à un moment donné, j'ai réussi le concours de praticien hospitalier et il n'y avait pas de poste sur l'établissement que j'exerçais, en tout cas pour les urgences. Puis, en même temps, j'avais passé le concours à la fois pour les urgences et à la fois à la médecine polyvalente. Et après, j'ai regardé les postes vacants. Hein, au niveau de la fonctionnalité hospitalière, hein, on postule, quand on a réussi des concours, on postule sur des postes vacants. Et il se trouvait que le service d'alcoolologie, à l'époque, à Valence, avait un poste vacant. Et donc, j'ai postulé, ça s'est fait comme ça.
Et aujourd'hui, vous êtes heureuse à votre poste?
Ah, tout à fait. Hein, sinon, ça fait maintenant depuis 98, en 2014, ça fait 16 ans. Hein, si ça ne m'avait pas convenu, je serais déjà partie.
Alors, si un conducteur tombe dans un coma parce qu'il est en hypoglycémie, on ne l'accusera pas. Mais s'il a un taux d'alcool élevé, on l'accusera et il terminera au tribunal. Comment on peut expliquer dans un sens que l'alcoolisme est une maladie alors que dans l'autre, elle est une faute civique? Comment on pourrait trouver un consensus, un terrain? C'est difficile, ce paradoxe entre ce que font les pouvoirs publics et ce qu'ils disent. Enfin, un paradoxe là, non?
Non, côté médecin, si on est à sa place, moi, quelqu'un qui arrive aux urgences ou dans notre service, qui a au-delà de 0,5 g d'alcool, 1 g, 2 g, enfin, nous, c'est le coma, c'est clinique.
Oui.
Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est cohérent, qui n'a pas de trouble de la marche, qui est alcoolisé, il nous oblige à faire une prise d'alcoolémie au niveau des urgences. Je vous dis 60% au passage des urgences, une alcoolémie positive. Mais je veux dire, parce que dans votre vie sociale, etc., vous venez de passer un repas d'affaires et vous avez bu, vous, pour une raison ou autre, vous amenez un collègue qui a fait un malaise, vous êtes aussi alcoolisé. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui accompagnent qui sont aussi alcoolisés. Nous, en tant que médecins, on traite l'accident. C'est-à-dire que si la personne est inconsciente, si elle titube, s'il y a des signes cliniques qui la mettent en danger et qui mettent son intégrité physique et psychique en danger. Donc nous, on intervient en tant que médecin. Après, la législation, c'est le monde juriste.
Ouais,
on
reste
à côté.
Ouais. Allez-y. Justement, bah, Laurence Côté, juriste de formation.
Alors, en tant que juriste, hein, c'est toute la difficulté entre la vie privée et la vie professionnelle. Hein. Moi, j'ai tout à fait, dans le cadre de ma vie privée, le droit de me saouler et j'en ai bien profité des heures et des heures chez moi à partir du moment où je ne me mets pas les autres en danger. Ce qui est condamnable, par contre, c'est l'ivresse publique hein, et la mise en danger des autres. Pour reprendre votre exemple, ce conducteur de tram, forcément, il a en charge, dans un cadre professionnel, la responsabilité de sa rame. Donc, s'il se présente avec un taux élevé, eh bien, on est dans un cadre professionnel où l'employeur a le droit de le retirer de son poste de travail. Et puis, moi, j'espère de prendre les dispositions nécessaires, notamment avec le médecin du travail, pour accompagner cette personne en souffrance.
C'est ce que vous déploriez un petit peu hein, dans le cadre de cette entreprise, mais dans les entreprises en général, ce manque d'accompagnement, hein, le fait qu'il n'y ait pas de réaction derrière hein, face à un malade alcoolique.
Oh ben finalement, mon histoire est exceptionnelle parce qu'elle force aujourd'hui les entreprises à ouvrir les yeux sur le problème de l'alcoolisme dans un plan, dans un cadre professionnel. Moi, j'ai appris plus tard que tout le monde était au courant de mon alcoolisme. Mon bureau était en face de celui du DRH. J'ai tout fait pour éviter cette fameuse cérémonie des vœux publique au cours de laquelle je vais m'effondrer devant 654 supérieurs. Soyons positifs, c'est fait, c'est fait. Mais il n'empêche que je crois qu'on aurait pu éviter cette fraction de seconde. J'étais pas toute seule à boire, et je le dis. Donc, je sais que les gens qui m'écoutent aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages d'ex-salariés de ce grand groupe qui reviennent vers moi en disant « c'est super, un, vous vous en êtes sorti, deux, nous avons évolué, hein, puisque les faits, c'est 2009, c'est 5 ans. Hein. » Donc, nous avons évolué et nous travaillons maintenant le problème alcoolisme dans un cadre professionnel. Nous réfléchissons, alors c'est long, hein, il faut mettre tous les partenaires concernés autour d'une même table, et Dieu sait si c'est compliqué, puisqu'il s'agit de la DRH, du médecin du travail, de l'assistante sociale, de l'infirmière, des représentants du personnel. Il faut absolument les associer à la démarche. Et au bout d'une ou deux années d'explications et de témoignages de salariés qui s'en sont sortis, hein, on peut à ce moment-là mettre en place un espèce de règlement intérieur qui sera lui-même voté et validé par le comité d'entreprise ou le comité d'établissement. S'il n'y a pas ces organes, eh bien on peut mettre une note interne. Hein, et tout doucement expliquer aux salariés, il y a la vie privée certes, mais il y a également les obligations professionnelles. Et si vous avez un problème, il y a également des instances qui sont là pour vous écouter. Finalement, et c'est aussi le sens de mon témoignage, j'aurais aimé, moi, qu'on vienne dans mon bureau, le DRH était en face, en vous disant, écoutez Laurence, vous avez un problème. J'étais à bout de course, moi. J'attendais cette main. Donc je ne l'ai pas eu aux urgences, je ne l'ai pas eu dans le cadre du boulot, je ne l'ai pas eu, enfin voilà. Qu'importe, je suis vivante. Mais aujourd'hui, il faut s'intéresser vraiment aux problèmes et on n'en est qu'au début. Mmh. Et c'est grâce aux médias d'ailleurs qu'on est en train de faire une belle boule de neige avec la pétition au bout.
Super, bah justement on va en parler de cette pétition puisqu'on arrive au bout de cet entretien, mesdames. Donc une pétition pour lancer la journée nationale contre l'alcool qui n'existe pas. Alors en quelques mots, Laurence, je veux bien que vous en parliez.
Bon, alors, c'est une idée toute simple. De toute façon, les idées les plus simples sont les meilleures. Je me suis rendu compte que si, avant de devenir dans cette dépendance du produit alcool, j'avais entendu un témoignage, un homme ou une femme qui parle comme nous avons fait, si, il y a 20 ans, on m'avait dit, bah tiens, aujourd'hui, on ne boit pas, je suis persuadée que mon parcours aurait été différent. C'est un jour par an, chacun et chacune va s'interroger, va s'abstenir, ou ça peut être, tiens, aujourd'hui je ne prends pas, ou je me limite à mon verre de vin, je ne prendrai pas le deuxième. Un jour par an, on se pose cette question-là, et si on ressent au niveau du corps ou du psychique, quelque chose d'anormal par rapport à ce médicament, qui est finalement le meilleur médicament, qui vient panser une souffrance, si on ressent cela, eh bien, grâce aux explications qui ont été données par le docteur Joly, on puisse franchir une porte, le médecin traitant, le milieu hospitalier, etc., et de nouveau parler dans des mots très simples, sans honte, de sa relation avec l'alcool. Donc j'aimerais qu'on institue une journée sans alcool en 2014. C'est une idée qui fait son petit bonhomme de chemin. Il y a quand même 18 000 signatures électroniques, plus toutes celles qu'on reçoit, parce que maintenant les groupes d'entraide font le lien
à leur échelle.
Voilà. Ouais. Et donc il y a des signatures écrites qui sont collationnées. Ça veut dire que, et j'attends aussi des soutiens officiels, mais ça c'est pas encore officiel, mais j'ai des rendez-vous importants avec vraiment des structures au niveau à Paris qui trouvent que finalement l'idée n'est pas si bête. Eh bien, j'aimerais en septembre qu'un petit groupe, puisque ça n'est plus la mienne, ma pétition, c'est une action de groupe. Et je pense que les plus belles réussites sont celles que l'on partage. Bon, donc nous irons déposer cette pétition sur le bureau de Madame la Ministre. Et après, elle fera ce qu'elle voudra d'un sujet quasiment numéro 2 de santé publique.
Oui,
le premier, c'est le tabac. Le deuxième, c'est l'alcool.
Voilà. Effectivement. Merci Laurence pour cette initiative. Donc, docteur Christine Joly, unité de soins en alcoologie et addictologie du Centre hospitalier de Valence, donc l'US2A, CHV, donc que vous pouvez retrouver peut-être sur Internet pour vous contacter si toutefois l'un de nos auditeurs en avait besoin.
Oui, tout à fait. Il est sur le site de l'hôpital.
Voilà, très bien. Merci de votre témoignage, Christine Joly.
Merci à vous.
Donc Laurence Côté qui lance donc la pétition pour la journée nationale sans alcool. Là aussi, on tape journée nationale sans alcool. J'imagine qu'on tombe sur un lien, Laurence.
Oui.
Tout simplement. Et puis vous pouvez retrouver bien sûr ces deux écrits, donc le livre à écrire chez Publibook et Non, j'ai arrêté, donc aux éditions Inter-éditions. N'hésitez pas, autant de témoignages, autant de réalités, de terrain, j'ai envie de dire. En tout cas, des clés pour vous, pour nous en sortir. Merci à toutes les deux de votre investissement et puis peut-être à bientôt sur les ondes d'Erdiwa.
Merci,
merci.
Interview. 1 Terre.
Okay. The bird.
Interview.
L'interview du jour.